Bon, alors, c'est bien clair que Yaakov Avinu est en Mitzrayim et on nous dit qu'il va y vivre 17 ans et qu'il va mourir à 147 ans. On a une tradition qui dit Yaakov Avinu l'omet, il n'est pas vraiment mort. Bon, on verra peut-être après ce que ça peut vouloir dire. Donc après avoir annoncé ça, le Marseille reprend la description des événements. On a appelé Yosef, on lui a dit voilà, il a fait appeler Yosef et il lui a dit voilà, comme vous savez, il lui demande de l'enterrer en Eretz Israël, de ne pas l'enterrer en Égypte, et il lui fait jurer. En réalité, quand Yaakov Avinu lui a dit « Je veux que tu m'enterres dans le kever, dans mon kever, c'est-à-dire Maat Hamakpela », alors Yosef a dit de lui-même, a priori, il a dit « Vayomar, Anochi Eseh Hidvarecha, je ferai selon tes paroles », c'est-à-dire je ferai ce que tu viens de demander. Alors là, Yaakov lui a dit « Shavali, jure-le-moi », il le lui a juré. Bon, ça c'est un événement qui a eu lieu à un certain moment, quand Yaakov pensait que, voilà, il était prêt à la fin. Et après cela, de nouveau, on a dit à Yaakov « Ton père est malade ». Il a pris ses deux enfants, Menaché et Ephraïm, et il a voulu les faire bénir par Yaakov, qu'il a fait effectivement, qu'il les a bénis avec évidemment le croisement des mains, comme vous savez. Et puis il raconte, redit à Yosef, donc, il veut qu'il l'enterre en Eretz Israël et lui dit bien sûr les enfants que tu auras en Égypte après cela, après Menaché et Ephraïm, que je prends, Lihem, ils sont à moi, prends à Yosef ses deux enfants et il les met à la même hauteur que leurs oncles. Bon, les autres fils de Yaakov, comme vous savez, sont donc les oncles de Menaché et d'Ephraïm. Et puis après, il raconte donc à Yosef, Vani, Bevoi, Padan Aram, Mipadan, Metalai Rachel, etc. Et là, il commence un peu à s'excuser de ne pas avoir pu enterrer réellement Rachel. Et il dit, mais tu pourrais peut-être m'en vouloir, j'ai pas enterré ta mère en Eretz Israël, et alors peut-être tu pourrais penser que tu n'as pas vraiment d'obligation de m'enterrer moi en Eretz Israël, pas plus que je me suis d'une certaine manière pas senti obligé d'enterrer ta mère en Eretz Israël, alors tu pourrais m'en vouloir. Bon, alors il va expliquer qu'il n'en voulait pas, etc. Et puis bon, maintenant on a toutes les bénédictions, pourquoi qui vont être le modèle des bénédictions dans le clan d'Israël. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Et ensuite, voilà, Yaakov dit à Yosef, je t'ai donné une part plus grande, en fait, une part de plus que celle de tes frères. Voilà, c'est effectivement, puisque Yosef, il a une double part, il y a donc deux tribus de Yosef dans les 12 tribus du clan d'Israël. Et du coup, après avoir béni les enfants de Yosef, Yaakov appelle ses fils et leur dit, rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va vous arriver à la fin des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Yaakov, écoutez Israël, votre père. Et en fait, il commence à parler, mais il raconte pas du tout ce qui va se passer à la fin des temps, parce que il n'a pas pu le faire. Tout à coup, il savait plus du tout ce qu'il en était du fameux Ketz de la fin des temps. Et donc, évidemment, il peut pas le raconter, et il dit autre chose. Et il y a toute une, d'accord, tout un texte où il donne à chacun de ses fils, ce qu'on va appeler par la suite une bracha. Tout à la fin, c'est marqué, dans le verset Kafret du chapitre Memtet, Kol ele shifte Israël, Shnemasar, tous ceux qui ont été énumérés ici, c'est les tribus d'Israël, ils sont 12. Les autres achers d'Iber Laem Aviel, ceci, ce qu'on vient de dire, c'est ce que leur père leur a dit, Vaivarech Otam Ish Asher Kivirkato Berach Otam. Il les a bénis, à chacun il a donné sa bracha. Et puis ensuite il leur a dit à tous, enterrez-moi auprès de mes ancêtres, etc., dans Marat HaMakpela. Une fois qu'il a eu terminé le Tzavot et Banav, de donner ses ordres à ses fils, il est mort. Enfin, il est retourné dans son peuple, comme c'est marqué. Donc, Yosef l'a pleuré, et Yosef a ordonné à ses serviteurs, les médecins, les spécialistes de l'embaumement, ils ont embaumé Israël. Enfin, encore. Alors, on donne les détails. Et puis, une fois que c'était terminé, Yosef a fait savoir à la maison de Paro que si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais trouver grâce à vos yeux. Parlez pour moi, donc, parlez aux oreilles de Paro, en lui disant que mon père m'a fait jurer que je ne l'enterrerai pas ici, mais que je l'enterrerai en Canaan. Maintenant, je demande la permission d'aller enterrer mon père et de revenir. Alors, dans le texte, on a que Paro a dit, vas-y, reviens, enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. Et donc, Yosef, il est parti, il y a beaucoup de serviteurs, enfin, tous les serviteurs de Paro, ils sont montés avec lui en Eretz Israël. Toute la famille, évidemment. Ils ont quitté Goshen où ils étaient. Bon, il a fait un enterrement somptueux, si on peut parler comme ça. Les gens ont dit, Evel, super, on n'a jamais, Evel Kaved Ze le Mitzrayim, c'est un deuil gigantesque pour l'Égypte. Donc les enfants de Yaakov lui ont fait ce qu'il leur avait demandé. Ils l'ont transporté en Eretz Canaan. Et ensuite, Yosef est revenu en Égypte, lui, ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour entourer son père. Voilà. Puis ensuite, on va revenir sur le dialogue entre Yosef et... ses frères pensent que, ok, maintenant notre père est plus là pour nous protéger, en quelque sorte, que si Yosef n'avait rien fait, c'est parce qu'il voulait pas faire de peine à notre père, mais maintenant que le père n'est plus là, maintenant il va se retourner contre nous. Alors ils disent quelque chose qui est très étrange, ils disent à Yosef, ton père... avant sa mort, il a ordonné qu'on te dise que tu dois nous pardonner, en fait. Et on s'est marqué que Vayef Yosef d'Abraham est là. Yosef a pleuré quand ils lui ont parlé comme ça. Et donc, finalement, ils sont tombés devant lui et ils ont dit, OK, nous sommes tes esclaves. À ce moment-là, Yosef leur a dit, ne craignez rien, je ne suis pas à la place d'Elohim. Vous avez une pensée mauvaise à mon sujet, mais Elohim, il l'a pensé, cette pensée, pour le bien. Pour qu'effectivement, je puisse aujourd'hui faire vivre un grand peuple. Et donc maintenant, ne craignez rien, je vais vous nourrir, vous, vos enfants, etc. Et donc, ils ont été consolés, et voilà, il leur a parlé à leur cœur. Et Yosef, et c'est très court le reste de la vie de Yosef. Ils sont revenus en Égypte, lui, toute la famille. Et Yosef a vécu 110 ans. Donc il a eu le temps de voir les petits-enfants, les petits-enfants, etc. Et il a dit à ses frères, là je meurs. Et il leur a dit la fameuse formule Elohim pakod ifkod etrem, que Hachem, Elohim va se souvenir de vous, vela etrem in haaretz hazot, et il va vous faire monter ce pays vers le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il a fait jurer les Bnei Israël, en leur disant, voilà, Elohim va se souvenir de vous, et vous ferez monter mes ossements de l'Égypte vers Eretz Israël. Et il est mort, comme on avait dit, à 110 ans, et il a été embaumé, et on l'a mis, Baharon, on l'a mis dans un cercueil, dans une boîte en Mitzrayim. Aaron, on va voir par la suite que les Bnei Israël dans le désert, ils vont transporter deux Aaronotes, deux boîtes, deux Aaron. L'un qui est le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire l'un, le Aaron qui contient les temples, qui contient les tables, et un autre Aaron qui contient le corps de Yosef. Et quand les gens demanderont qu'est-ce que c'est que ces deux-là, alors on dira, celui qui est dans cette boîte, il a accompli ce qui est dans l'autre boîte. C'est donc, en deux mots, je vous ai dit, juste en passant rapidement sur les événements, en quelque sorte, et je voudrais voir avec vous un peu dans le détail ce que le Rav Volbeh disait sur certaines des brachot de Yaakov, et on va commencer par celle dont on a un peu parlé au moment de Hanouka. Yaakov, quand il a parlé à Shimon et Lévi, les a traités ensemble. Il a donné une bracha ensemble à Shimon et à Lévi. Et il a dit, Kle Hamas Mechorote. Rashi explique, Kle Hamas, c'est des instruments de vol avec violence. Et Rashi dit, Umanutzu, ce savoir-faire-là, Shel Retzicha, de tuer les gens. Il fait référence, bien entendu, au fait que Shimon et Lévi ont massacré les gens de la ville de Shechem. Après le viol de Dina par Shechem, les Bnei Israël Bon, bon, ils ont négocié avec les gens de Shrem, etc. Ils ont amené à faire la Mila. Mais Shimon et Lévi n'étaient pas d'accord. Enfin, pas d'accord. Ils n'ont pas laissé les choses se faire comme ça. Et ils sont allés, ils ont massacré Shrem aux grandes dames de Yaakov Avinu, qui surtout avait très très peur, c'est ce qu'il leur a dit en tout cas, de la réaction de tous les peuples alentour. Il a dit, on est un tout petit groupe de gens, ils vont nous massacrer complètement, vous êtes complètement fous d'avoir fait une chose pareille. Mais maintenant, ce qu'il leur dit au moment de sa mort, au moment où Yaakov va disparaître, il leur dit, Umnudzu shel retzicha, Hamas ou Biatrem. Ce savoir-faire là, ou cette conduite là, de massacrer, tuer, en fait, vous l'avez volé. C'est-à-dire, non seulement vous avez massacré les gens, mais en fait, vous êtes des voleurs en faisant cela parce que les birkat et sav, vous. Ça fait partie de la bracha des sav. Zou umanut shelo. C'est son savoir-faire, c'est son art, on pourrait presque dire. Aujourd'hui, c'est le mot qui fait référence à l'art aussi. Atem chamastem ota emenu. Vous le lui avez volé. Vous la lui avez volé, cette umanut, ce savoir-faire, cette façon de se conduire. Elle est propre à Esav. Et vous l'avez volé. Ça, c'est Rashi. Alors, le Rav Abba, il explique ici que l'histoire de Shimon et Lévi qui sont présentés comme Achim. Shimon et Lévi, Achim. Shimon et Lévi sont des frères. Ben, ils sont tous des frères. Pourquoi est-ce que Yaakov souligne le fait qu'ils sont des frères? Ici, je souligne que ils ont cette ma'ala, c'est une qualité de se considérer comme frères. Et ça, c'est ce qui leur a fait ressentir vivement ce sentiment de fraternité à l'égard de, enfin c'est plus la fraternité, mais à l'égard de leur sœur. Ils ont beaucoup souffert de ce qui est arrivé à leur sœur, Dina. Et dans leur colère, à ce sujet-là, ils ont tué tous les gens de Shrem. C'était effectivement, c'était pas ce qu'il fallait faire, a priori. V'chen mitoch argashat ha'achayut ve'ahava, hem ichlitu la'arog et Yosef. Et c'est aussi au titre de leur responsabilité, de leur fraternité, qui font partie de ceux qui ont décidé de tuer Yosef quand Yosef est venu sur l'ordre de leur père pour prendre de leurs nouvelles. Le fils d'Atam, Pagab et Achva. Parce que d'après eux, Yosef, il a nié la fraternité, qui devrait régner entre les frères, entre tous les fils de Yaakov. Et là, Shehem, Ishtamshu, le Tzrachim Alal ou Michle Hamas. Mais Yaakov dit, c'est vrai, c'est au nom de la fraternité. Mais les instruments que vous avez utilisés, vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas. C'est les kelim, c'est des instruments que vous avez volés à Esav. Jacob leur dévoile que chaque chose doit être chaque chose doit avoir une racine parmi les avot. C'est-à-dire, vous devez agir de telle sorte que vous puissiez vous rattacher par votre action au avot. Mais la violence, cette violence-là que vous avez manifestée, ça, c'est-à-dire aller de force jusqu'à la, au massacre de toute une ville, enfin, oui, ça, ça n'a pas de racine, ça n'a pas de source dans la famille de Yaakov. C'est quelque chose que vous avez pris ailleurs. Vous avez pris des saves. Ce sont des midot qui n'ont pas de source chez nous. Et c'est ça la tochacha, c'est ça les remontrances que Yaakov a faites à Shimon et Lévi. Il n'a pas simplement dit c'est vilain de tuer les gens, vous n'auriez pas, etc. Il aura dit, dans votre démarche, il y avait une très bonne mida, à savoir la fraternité, qui était extrêmement développée chez eux, et qui débouchait sur une responsabilité des frères entre eux. Bien sûr, c'est fraternité, responsabilité, co-responsabilité. Et la violence, elle fait pas partie. Vous pouvez pas vous rattacher à quoi que ce soit, ni chez Avraham, ni chez Yitzhak, ni chez moi. En tant que patriarche, ce que vous avez fait n'existe pas chez nous. La Torah, ça veut dire vous êtes comportés comme de véritables étrangers au peuple juif, en fait, si on peut parler comme ça. Ça, c'est une conduite qui n'a pas lieu chez nous. Plus bas, quand Yaakov va rappeler Maasé Zimri, Korach, etc., et ça, les Adato, Ubikesh shelo izacher shmo badavar. À chaque fois, Yaakov va demander qu'on ne mentionne pas son nom. Qu'on va dire Korach, fils de, on aurait pu aller jusqu'à Yaakov. Il était bien entendu un descendant de Yaakov. Yaakov va demander, je ne veux pas que mon nom soit mentionné dans l'ascendance de Korach ou dans celle de Zimri, la tribu de Shimon. Pourtant, ce sont les enfants de Shimon, de Lévi. Je ne veux pas qu'on fasse un pas plus. Bien sûr que de facto, ils sont leurs enfants. Mais quand on rattache quelqu'un à ses ancêtres, on veut dire par là qu'il a des midot qui ont leur racine quelque part dans cet ancêtre. Elles ont à voir avec cet ancêtre-là. Et donc Yaakov leur dit, question. Moi, je ne veux pas. J'ai rien à voir avec vous. Tant la démarche de Korach que celle de Zimri ne sont pas des démarches de chez nous, en quelque sorte. C'est des midot que Korach et Zimri ont hérité de Shimon et Lévi. Et Yaakov savait, ça vient pas de chez moi. C'est pour ça qu'il ne veut pas que son nom soit mentionné dans leur ascendance. Et puis il a terminé en disant, Arou Rapam, maudite soit leur colère, qui az, souvenez, on a parlé de cette azout, de cette impudance, des Hashmonaïm, des descendants des Kohanim, enfin des Kohanim. Donc, Achalkem be Yaakov, Afitzem be Israël. Je vais les partager dans le clan d'Israël, dans Yaakov, je vais les disperser dans Israël. A priori, il semble que Yaakov a vu nous, il ne leur a pas donné le bracha. D'accord. Il a utilisé le mot arour. la malédiction. C'est pas une bracha, c'est une malédiction. Mais à la fin, je vous ai lu là, j'ai lu les derniers psukim qui disaient que, en fait, c'est dans le pasuk c'est marqué Ish Asher kevirkato berach otam. Il a donné à chacun sa bracha. Donc c'est une bracha à chacun. Shimon et Lévi font pas exception. Et donc il faut comprendre ici en quoi est-ce que c'était une bracha. On a dit ici quelque chose d'important, que midot ha'adam, les différentes midot, les qualités et défauts des hommes, c'est un sujet très très profond. Si seulement on arrivait à connaître, comprendre nos midot à nous, pas de comprendre celles des autres, mais au moins les nôtres. Si on arrivait effectivement à comprendre nos midot. En vérité, un homme peut vivre toute sa vie sans connaître ses qualités et ses défauts. Yaakov a béni ses enfants avec une bracha fabuleuse. Il leur a dévoilé leur midot. Chazal disent que quand un homme meurt, il y a trois malachim qui viennent et qui lui disent « Kum ve'emor et shimcha »« Lève-toi et dis ton nom. » Omer la'em amor amet. Alors le mort dit « Meid ani alai shamaim va'aret sheni yodeat shmi » Je témoigne, je prends à témoin le ciel et la terre que je ne connais pas mon nom. Alors, Amalach, noten lo maka, chalchelet shel barzel, veshoveret atzmotav. Malach lui donne avec une chaîne de fer et lui brise les os. Ceci dit Rabbi, c'est un makor de mashe besof atfila avant le yuluratzon à la fin de la amida, omrim pasuk shematril beot sheba matril shema adam umesayem beot sheba istayem shmo shel adam. Et chacun a un pasouk qui commence par sa première et termine par sa dernière lettre, la dernière lettre de son nom. Et on récite ce pasouk à la fin de l'Amida. Zui, tiskoret l'Adam bechayav, tiskoret shmo. C'est une façon pour que l'homme se souvienne de son nom. Dans le Sidourim, c'est écrit à la fin, en général à la fin de la Amida, enfin dans, vers là-bas, dans cette région-là, il y a une liste des noms avec les psukim qui correspondent justement avec, qui commencent par la première lettre de leur nom, le nom des gens, et terminent par la dernière lettre. Avalmaou Ainyan l'iskoret shemo. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il faut se souvenir? Et pourquoi celui qui a oublié son nom reçoit-il des makot pareils, et des coups pareils? La réponse, ou l'explication, c'est que le nom que les malachim demandent aux morts de prononcer, son nom, c'est pas simplement son nom, Tam, son nom. On sait bien que le nom de quelqu'un en fait, ou à Mahout chez l'Adam. Le nom de quelqu'un, c'est son essence. Zamalachim shoalim oto ma'outra. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Quelle est ton essence? Quelle? Mi shechay shmonim shana ve'eno yodea mi hu azeh magia lo makot. Celui qui après 80 ans de vie ne sait pas comment il s'appelle, connaît pas son nom, donc il ne se connaît pas du tout. C'est normal qu'il reçoive des coups. C'est ma ville, c'est effrayant. Parce que Adam yachol lichyot et kol chayav. Un homme peut vivre toute sa vie. Quand on lui demandera, c'est quoi ta bonne mida, par exemple? Quelle est ta qualité principale? Ou yane, il va dire, j'ai donné de la tzedaka. Yavou, on va venir, v'yochichu lo, on va venir et on va lui démontrer, chez kol netinat tzedaka shelo, que tout ce tzedaka qu'il a donné, a été mishum negiya msuyemet. Il avait une negiya. Il a donné ça pour avoir une bonne réputation. Il a donné ça par superstition. Il pensait que ça, etc. Toutes sortes de raisons. Vekar kol mida tova ifrechul. Et quand, toute bonne mida qu'on va présenter, on va faire la démonstration de ce que cette mida n'existe pas. Asugia amuka biyoter ba'adam imidotav. Le sujet le plus profond concernant l'homme lui-même, c'est le sujet de ses midot, de ses qualités et défauts. Adam yachol lit'ot kol kach b'midotav mibli la'akir klal et atzmo. Et l'homme peut se tromper tellement, il peut vivre toute sa vie, mais il se connaît pas, il sait pas qui il est. Il dit, j'ai entendu de Rabbi Yochanan, chez le kol adam yesh bipnimiut mida yesodit. Dans sa pnimiut, bipnimiuto, il y a une mida fondamentale. Chacun a une mida absolument fondamentale. S'il la connaissait, cette mida, aya yachol al yada leishtalem b'chol amidot. En connaissant cette mida-là, il pourrait amener toutes les midot à la perfection, en tout cas, les compléter de façon maximale. Le dogma, exemple. Imroim yelet. Si on voit un enfant, chez Yodéa, qui sait très bien, chez Im ou Yodéa la Emet, ou Ikabel Makot. Il a fait quelque chose et il sait que s'il avoue, il va recevoir des coups. Il va être puni. Ve'afal piken ou modé à la émet, et malgré cela, il dit la vérité, areze raya yeshbo midat émet, shorashit. C'est la preuve qu'il a une midat de émet qui est radicale. Et la Sheyesh Sakana, sauf qu'il comprend bien qu'il y a un danger. Imu lo makir bemidato zu, une sakana énorme, c'est que s'il n'est pas conscient de cette mida, ou bemesher hazman ou ishkach mise, et qu'il va l'oublier le temps, veyeshakran, et qu'il va se mettre à mentir, c'est une chakana, c'est très possible. Inuaya yodea mimidato zu. S'il était conscient de cette mida, isaya shomer al midato, veomed alea, avumakom sheu, nifgash benisyonot. il ferait attention et il préserverait cette bonne mida même en situation d'épreuve. Comme chez Ouivgash Beatzlout, Yamod Alehemet, même quand il sera confronté à, je sais pas, à la paresse, par exemple. Dire la vérité. Si c'est pas levé par paresse pour aller à son cours ou aller à la fila ou pour faire une mitzvah ou pour faire ce qu'il avait à faire, il va dire, j'étais paresseux, je me suis pas levé. Il va pas dire, ah, j'ai fait une mauvaise nuit, j'ai mal dormi, j'ai pas pu me lever le matin. Non, t'as pas fait une mauvaise nuit, quand tu t'es réveillé le matin, t'avais pas envie de te lever, c'est tout. Par exemple, si c'est quelqu'un qui n'aime pas faire le chesed, mais quand il reconnaîtra que à l'ibed de emet, en vérité, il est obligé de faire ce chesed, mitam emet pour le. Il va donc par cela arranger aussi sa mida de chesed. Sa mida de chesed n'est pas bonne, mais quand il va être confronté au problème de faire du emet et parce que un pied emet, d'après le emet, il faut en faire. Il faut, dans ce cas-là, il faut qu'il fasse du emet. Et ben, il va le faire. Donc il va faire le emet. Il va arranger sa mida de emet. Avec le temps, à l'aider midata emet ashorashit chebo, grâce à cette mida de emet, cette mesure de emet qui est radicale chez lui, le emet va l'obliger à arranger toutes les autres midot. Valim enomakir et midato. Mais s'il ne la connaît pas, le mesherazman que chez il gâche des midot acherot ou yafsid et midat emet. Avec le temps, quand il va être confronté à d'autres midot, il va perdre cette midat de emet. Vasquar loti eloshum efsharut letaken et midotav. Dans ce cas-là, il est perdu parce qu'il n'aura pas de moyen d'arranger ses autres midot. La hauteur de Kelm, qui était donc le maître de Rabbi Yerucham, hier, chez Zou Kavanat Chazal, il a expliqué que c'est ce à quoi pensent les Chachamim quand ils disent que les Tzadikim offrent et midat adin le midat Rachamim. Que les Tzadikim peuvent transformer la midat adin, celle de rigueur, attribut de rigueur, en attribut de tendresse. C'est-à-dire, chez Amidot Araot, M. Midat Adin. Les mauvaises Midot, c'est la Midat Adin. Amidot Atovot, M. Midat Arachamim. Tzadikim, metaknim et Amidot Araot, à l'idée Amidat Atova Shelaim. Tzadikim, ils arrangent les mauvaises Midot grâce à la bonne Mida qui est la leur. Vofrim est un midot araot, le midot tovot, c'est-à-dire midot arachamim. Ilo archaim, au contraire, les rechaim, aussi mafour, font le contraire. Vofrim est midot ehem a tovot, le midot raot, midot adin. Leurs mauvaises midot sont tellement fortes que elles transforment en mauvaises midot leurs bonnes midot. De la même manière que l'homme a une mida fondamentale qui est parfaite. Car c'est gam le tzadara. De l'autre côté, c'est la même chose. Yesh ba'adam mida ra'a, achat, yosodit, fondamentale, radicale, shemimena mista'afim kol midot ra'ot. Et c'est de cette mida ra'a essentiel, fondamental, que dérivent toutes les autres mauvaises midotes. V'imu yodea ma'i midato ara. S'il la connaît, cette mauvaise mida. V'u nizarba, et qu'il se méfie de cette mauvaise mida qui est en lui. Il fera automatiquement attention à toutes les mauvaises midot. Celui qui ne connaît pas sa mauvaise mida, il va abîmer toutes ses mauvaises midot. Dans la bracha de Yaakov Avinu, il y avait le fait qu'il était en train de leur dévoiler leur midot fondamental, leur midot radical. À Reuven, il lui a dévoilé que sa mauvaise mida, c'est la Béhala. Sa mauvaise mida, c'est Béhala. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est trop impulsif. Il réagit avant de réfléchir. Et pour cette raison, il l'a éloigné tant de la keuna que de la royauté. Ki im midak azot asur lo liot sorer al acherim. Parce qu'avec des midot pareils, il ne peut pas diriger les gens. Ki al yedea behala alulim latset Mircholim Gdolim, parce que par cette mauvaise mida, par cette impulsivité, il y a de mauvaises choses qui peuvent, de très mauvaises choses qui peuvent arriver. De même pour Shimon et Lévi, Yaakov leur a donné une etza, un conseil. Comment faire pour ne pas se casser la figure sur cette mauvaise Mida, qui est la leur, il a dit, il faut, vous séparer, il faut disperser. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé, il faut séparer Shimon et Lévi, c'est ce que Yosef a fait d'ailleurs, quand il a gardé Shimon, il n'a pas laissé Shimon et Lévi repartir tous les deux, sinon ils auraient mis l'Égypte à feu et à sang. Il a gardé Shimon. Et par la suite, les Lévites, bon, il y en a partout, des Lévites. D'accord. Il y a des villes de Lévites un peu dans tout le territoire d'Israël. Et les gens de Shimon sont des enseignants itinérants. C'est Klal Gadol Bachaim. Alors, Rav Obedi, c'est une grande règle. Dans la vie. Imi Adam, shebe tivo, mechapes kavod. Quelqu'un qui naturellement recherche les honneurs. Il recherche, aujourd'hui on ne dit pas les honneurs, il recherche le respect. Veu eno makir et atzmo, mais il ne se connaît pas. Ou yachol la'abed et chayav kedei sheikabdu. Il peut perdre sa vie à chercher qu'on lui donne du kavod. Et il n'en aura pas, parce que les gens, ils vont le sentir, ils ne vont pas lui donner. Aval imu yodea, shechesrono hu avat kavod. Mais s'il sait que son défaut, c'est cet amour du kavod. Azo yachol vetzarich lechaven et chayav vederer shen ba sakana shel kavod. Il faut qu'il gouverne sa vie de telle sorte qu'il n'y ait pas ce danger du kavod. Le machal, exemple. Adam Kazé, imoui est rav. Si un homme pareil devient rav, kol rabanuto tiye lachtof kavod. Toute sa carrière rabbinique, ce sera d'attraper du kavod. Ve'echan she lo yetze lo kavod, ou lo yavo, il n'ira pas dans toutes les situations où on ne lui donnera pas le kavod. lo yaspik lo liot rav bekila ktana. Il va pas se contenter d'être rav d'une petite communauté. Ou yachpos liot nekare rav. Il veut être rav de machoz, rav de la région. Et peut-être aussi, il va se faire une yeshiva. De telle sorte qu'on l'appelle aussi Av Bet Din, Rosh Yeshiva. Adam Kazé, Arabanut, Yechola, Lorido, Le Ber Shachat. Son kavod. Et si on le met dans la situation de la Rabanut, il peut dégringoler au plus profond. Iloya Nishar, Adam Pashut, s'il était resté un citoyen lambda, Ziachol Lavo, Lide Shlemut, Mibli, les Itnasot de Kavod. Et donc, sans s'occuper du Kavod, qui peut atteindre l'imperfection. Ilu Adam Aya Yodea, Mai Midato Araa, Aya Chol Itrachek, Minishionot, Veloli Kasha. Il pourrait donc s'éloigner des épreuves. Des épreuves qu'il sait très bien qu'il n'est pas capable de... Il se met lui-même dans des épreuves. Les épreuves, on sait, sont toujours à la hauteur pour nous. Mais quand c'est nous-mêmes qui nous mettons, comme quelqu'un qui se met en danger, on dit, les shluchei mitzvah, les gens qui sont en chemin pour faire une mitzvah, il leur arrive rien de mauvais. Mais c'est évident que quelqu'un qui est en chemin pour faire une mitzvah et qui se couche au milieu de la place de la Concorde, d'accord, mais pas en période de confinement. Bon, voilà, il va lui arriver des petites choses. Hein. S'il se met lui-même dans une situation dangereuse, alors évidemment que... Dougma le zé anno motsim me pensa chez Lot. On trouve un exemple de cette situation chez Lot. On sait bien que Lot était un grand bonhomme. Mais Chazal nous dit que il était lahout achar bulmus chez la rayot. C'est quelqu'un qui recherchait la débauche dans le domaine des rayot. L'auteur de Kelm disait, il écrit, il apporte une preuve qu'il était aussi à la recherche de l'argent à tout prix. Vimken sarich biyur ech alach lisdom ve'emid et asmo benisayon shelo yochal la'amod bo. Et donc, il faut comprendre. Comment se fait-il qu'il soit allé à Sdom? Il s'est mis dans une épreuve qu'il ne pouvait pas supporter avec succès. La canire chez Lot, lo yada chez ou la kui, le midot alalo. Il ne savait pas qu'il avait ces manques là. Ou alors l'isdom, il était là à Sdom, qui est un lieu de perdition, quoi, dans ce domaine. Et effectivement, logiquement, il s'est cassé la figure. S'il avait connu ses midotes, il ne serait jamais allé là-bas. Et donc, il n'aurait pas failli. La bracha que Yaakov Avinu a donnée à Shimon, à Reuven, Shimon, Lévi, il leur a dévoilé à eux leur manque. Leur mauvaise mida. C'est une énorme bracha, en vérité. Kim yodim et achesronot, efsharle natsemer. Parce que si on connaît les défauts, on peut faire en sorte de ne pas se casser la figure dans ces domaines-là. Vechen la acherim, dit la Yaakov et maalotehen. Aux autres aussi, Yaakov a dévoilé leur qualité. Yaakov a vinu gila le Yuda. Il a dévoilé à Yehuda Midato Atova Ashorashit. Il a dévoilé à Yehuda sa mida radicale, la bonne mida radicale. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'est le, la force, la puissance, la bonne mida par excellence de Yehuda? Qu'il est modèle à la Emet, qui reconnaît la vérité. C'est sa reconnaissance du Emet. C'est pour ça que la royauté lui convient. Mais le chéno modèle à la Emet, roi, il ne reconnaît pas la vérité. Quand on lui montrera qu'il s'est trompé. Il s'est trompé. Miyadichos, immédiatement, il va se mettre en colère. Mais un roi qui a la mida de Hoda'a la Emet, il reconnaîtra qu'il s'est trompé. Kshadam makiret midato atova aliada uyachol lehashlim et kol midot haraot shelo. Il peut venir à bout de toutes ces mauvaises midot. Ce que Rabbi Yocham a appelé la mida radicale, fondamentale, c'est le shoresh de la neshama de chacun. Shim shoresh la neshama shel adam ou bechesed, la racine de la neshama de quelqu'un est dans le chesed. Alors, sa mida radicale, c'est le chesed. Agoen, le Gaon dans Michelet, il écrit que Pam que Shayun Vim, quand on avait des prophètes, à l'époque où nous avions des prophètes, Ayu Olchim Eleb, on allait chez le prophète, Vem Ayu Omrim, et les prophètes disaient à chacun, Shoresh nishmatra ou kach. La racine de ta neshama, c'est ça. Ulecha amatima derech avodazu. Et toi, ta avoda, ton service d'Hachem, c'est ceci. C'est dans tel et tel domaine. Nous n'avons pas de prophète qui puisse nous dire une chose pareille. Ils ne peuvent pas nous dire quel est le shoresh de notre neshama. Donc nous, on n'a pas d'autre possibilité que d'aller d'après le Shulchan Aruch, d'après le Mesilat Yesharim. Et nasot le'akir et amidot ha'ikariot apoalot banu. Pour essayer de comprendre quelles sont les midot fondamentales qui fonctionnent chez nous. On a vu déjà dans les shiurim de Aleshur, que le Rav Volbeit, il faisait une espèce de rose des vents, en quelque sorte. Vous vous souvenez? Il mettait tout en haut la mida dont on pensait qu'elle était la mida positive essentielle, tout en bas la mida ra'a dont on pensait qu'elle était la plus essentielle, et puis de façon dégressive, les choses qui étaient de moins en moins bonnes, des choses qui étaient de moins en moins mauvaises. Alors, c'était bien sûr que cette situation-là, cette espèce de rose des vents, elle se fait pas comme ça, on s'assied pas, tiens, je m'écris ma rose des vents, ça c'est ma bonne mida, ça c'est la moins bonne, etc. C'est bien entendu la résultante d'une réflexion sur soi-même, qui peut durer des années, c'est-à-dire on peut très bien penser, voilà, je dirais aujourd'hui que c'est comme ça, maintenant on va tester pour voir si vraiment c'est ça. Et puis on aura bien sûr des changements à faire, et souvent on aura des surprises. Parce qu'en réalité, si on nous demande comme ça à brûle pour point, il a rapporté que là, à la fin des temps, quand on nous demandera, on ne saura pas. Mais en vérité, on peut se tromper complètement. C'est ce qu'il a dit après, si tu te trompes complètement. On va te démontrer que c'est pas vrai du tout. Mais ça, on peut se le démontrer à soi-même. Donc, le Majguir disait que il faut avoir, pour lui, bon, je profite de le dire, je l'ai déjà dit dans les shiurim de Aleshour, mais avec vous, je pense que ça fait déjà un certain temps que je n'ai pas fait d'Aleshour. C'est avoir en permanence une espèce de carnet, comme une espèce de carnet de laboratoire. Les gens qui font de la recherche, enfin, qui travaillent dans les laboratoires, ils écrivent dans leur carnet de laboratoire, on écrit tout, 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 tout. Tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on fait, on note. Donc voilà, j'ai mis tant de grammes ici sur la balance, et j'ai mis tel et tel truc, ça pesait combien, etc. J'ai laissé ça mijoter dans tant et tant à telle et telle température, ça s'est comporté comme ceci, comme cela. On écrit tout, même les choses dont on voit pas très bien ce qu'on va pouvoir en faire, mais demain, après-demain, on aura une situation, on se dira, ah, je connais ça, j'ai déjà eu ça il y a 3 ans, donc feuillette le truc. Alors, bien entendu, ça sert à rien d'écrire, de prendre un carnet et d'écrire, voilà, aujourd'hui, lundi soir, j'ai écouté le cours, et puis après j'ai fait ceci, ou par exemple, ou j'ai pas bien écouté, par exemple. J'ai pas écouté le cours. Je l'ai pas bien écouté. Bon, ça, c'est une chose. Mais si, dans une situation, je dis, je me suis mis en colère, ça sert strictement à rien. Il faut savoir pourquoi je me suis mis en colère. Parce que c'est ça qui va être important. Dire que je me suis mis en colère, ok, tu sais, mais tu sais pas du tout si en vérité cette colère, elle était peut-être même justifiée. Il y a des situations dans lesquelles, peut-être, comme on dit, quand on en a marre d'échouer dans toutes les bonnes résolutions qu'on a prises et que ça fait la 40e fois qu'on se casse la figure, on peut être amené à être en colère contre soi-même. Si je dis je me suis mis en colère, peut-être que c'est une bonne colère ici, celle-là. Mais il faut dire, voilà, j'ai dit cela, ou j'ai entendu cela, et ça m'a touché, et ça, j'ai mal répondu, etc. Ça, effectivement, avec le temps, ça peut donner une idée, des midotes qui fonctionnent. Je peux m'apercevoir que j'ai une sensibilité, comme on pourrait dire quelqu'un qui noterait, voilà, aujourd'hui j'ai mangé ça et ça, la recette, elle comprenait tant et tant de grammes de sucre, tant et tant de grammes de sel, etc. Et après, je sais pas, sur un certain temps, on peut se dire, hein, bon voilà, ici, là, visiblement, je suis allergique à ça. Parce qu'après avoir mangé ça, j'ai une indigestion. Et là, je le retrouve, de nouveau indigestion, là aussi. Donc ça fait, je sais pas, des brûlures d'estomac, ou ceci. À ce moment-là, je vais pouvoir trouver quelque chose. Si j'ai simplement dit, j'ai eu mal, si je sais pas, si j'ai brûlure d'estomac, ça ne me sert à rien du tout. Si je sais pas ce que j'ai mangé, par exemple, ou que j'ai quelque chose être la cause de cette mauvaise digestion, etc. C'est ça qu'il faut noter. Et il faut avoir la patience de le noter, et il faut avoir ça en permanence sur soi, quasiment ce carnet. Il ne faut pas écrire le Shabbat. Mais il faut l'avoir et pour pouvoir l'écrire très régulièrement, peut-être au moins tous les soirs ou tous les matins, je ne sais pas, sur ce qui s'est passé la veille, si on a une bonne mémoire. On peut aussi, il faut l'écrire de telle sorte que ça soit vrai. Ça veut dire qu'éventuellement, il faut peut-être l'écrire d'une façon que ça ne soit pas compréhensible par tout le monde. Parce que peut-être on a peur que ça tombe dans les mains de X, Y ou Z, et on n'a peut-être pas envie, alors il faut se trouver un moyen ou de le cacher ou de le rendre invisible ou de mettre un code ou vous pouvez l'écrire sur votre téléphone, mais avec un code ou quelque chose qui vous permette de dire la vérité sans avoir peur que quelqu'un le lise, que ce soit un conjoint ou un enfant, etc. Ce qui peut être désagréable. On peut pas parler. Il faut qu'on puisse parler vrai, sans avoir peur. Et on a, il n'y a pas de raison. Si on le laisse traîner, c'est quasiment éventuellement, dans certaines circonstances, du lashon hara sur soi-même. Quand je l'écris pour moi-même, c'est pour travailler. Dans ce cas-là, j'ai le droit. Mais si je le raconte à n'importe qui, c'est du lashon hara. On n'a pas le droit sur soi-même non plus. À la fin de sa vie, Yosef a fait jurer les Bnei Israël qui l'enterreront en Eretz Israël, qui, au moment de la sortie d'Égypte, ils le prendront avec. Et le Meshech Chochma demande pourquoi est-ce que Yosef n'a pas fait jurer ses fils? Pourquoi il s'est adressé à tous les Bnei Israël? Pourquoi pas ses fils? On a dit parce qu'il savait chez Banav, une partie d'entre eux en tout cas, c'est-à-dire Hatsi Shevet Menaché, la moitié de la tribu de Menaché, que eux, Irshu Me'ever Yarden, eux, leur territoire sera avant de franchir le Jourdain. Khatsi Shevet Menaché fait partie de Rouven, Gad et Rouven, qui ont demandé à s'installer avant le passage du Jourdain. Donc pas en Eretz Israël Mamash. Et donc, ils pensaient qu'évidemment, c'est les descendants dans ces tribus-là, ils voudront enterrer leur père, leur ancêtre, dans leur territoire à eux. Et donc, éventuellement, ils ne le feront pas franchir le Jourdain non plus. Donc, il a dit aux Bnei Israël que eux ont l'obligation, eux qui vont franchir le Jourdain, de l'enterrer en Eretz Israël. Et pas Be'ever Yarden, et pas avant qu'on franchisse le Jourdain. Et c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont enterré à Shrem, à Naplouse donc, comme c'est marqué dans le Sefer Yoshua. Donc ici, on comprend pourquoi il ne s'est pas adressé. Alors en vérité, il n'y a que la moitié de la tribu de Menaché. Mais déjà ça, peut-être que ce sera eux qui seront peut-être les plus puissants parmi les descendants de Yosef et que c'est eux qui gagneraient éventuellement. Et ça, Yosef ne le voulait pas. Pas demander aux gens de l'enterrer à un endroit où eux-mêmes ne seraient pas, puisqu'ils vont évidemment vouloir que leurs proches soient enterrés, leurs ancêtres soient enterrés le plus proche possible de chez eux. Alors, ce que Yaakov dit, Kol Ele, c'est marqué sur les 12 tribus, Kol Ele Shifte Israël Shnemasar, Itachen, on peut penser que ce que dit Yaakov ici, c'est Afalpi, Shelo berachti et ashlosha arishonim. En vérité, il n'a pas vraiment donné une bracha aux trois premiers, à Reuven, Shimon et Lévi. Le Ravolbe, il a expliqué que c'est une bracha de dévoiler, etc. Mais enfin, le Lachon, le texte de ce qui est dit sur Reuven, au sujet de Reuven, Shimon Alevi, c'est pas vraiment d'une bracha. Alors le Meshech Chochmo il dit, Kol zot, kol elehem shiftei Israël. Néanmoins, ils sont tous les tribus d'Israël. Ou beklalutam nikru beshem Israël. Et ensemble, on les appelle Israël. Ve'ulai, peut-être, kivan le mashe amru, peut-être que ça correspond à ce qui est dit au début du Perekei Shnochlin dans Bava Batra, pardon. On a marre, elle dit là-bas, Gmire, de l'eau qu'il a shifta. Vachevet yé bifne atzmo. Velo emache shevet Israël. Peut-être que ce qu'on veut dire ici, chacune est une tribu et on a besoin de 12 tribus. Agmara, elle dit que on a une tradition, on a appris que il n'y a aucune tribu qui va complètement disparaître. La tribu, elle va toujours rester comme telle. La structure tribale, elle va rester. Et il ne va pas manquer une tribu dans les 12. Ce qui est une chose importante par rapport à ce qu'on sait. Donc, il y a eu tout un royaume, c'est-à-dire, en gros, 9 tribus et demie qui ont quasiment disparu. Cette promesse, a priori, elle voudrait dire que on ne sait pas où ils sont, mais ils n'ont pas complètement disparu. Comme on a déjà dit plusieurs fois, vraisemblablement, quand les Assyriens, Sanhérib, ont déporté les gens du royaume du Nord, donc du royaume d'Israël, il y avait probablement des gens de ce royaume qui étaient, pour des raisons commerciales ou autres, qui n'étaient pas sur place, qui étaient dans le royaume du Sud, par exemple, et peut très bien, vraisemblablement, Hachem peut très bien avoir tiré les ficelles de telle sorte que ce soit ainsi, c'est qu'il y a des éléments de chacune des tribus qui sont, à titre individuel, dans les tribus de Yehuda, Binyamin et moitié de Menaché. Par conséquent, la tribu n'est pas complètement détruite. On peut très bien imaginer qu'au sein du clan d'Israël, il reste 12 tribus. Les tribus comme telles, elles semblent avoir disparu, mais si on considère que, si on a une tradition qui dit qu'aucune des tribus ne sera complètement anéantie, alors on doit expliquer ça de cette manière-là, ou d'une autre manière, ils étaient ailleurs et qu'ensuite ils sont revenus, ils se développent d'une manière ou d'une autre. Indépendamment du fait que peut-être qu'ils étaient complètement ailleurs, ça on ne sait pas. Il y a quand même, par exemple, les Afghans ou certains, les Pashtuns, je crois, chez les Afghans, qui disent qu'ils sont les descendants de la tribu de Yosef. Ils ont une tradition comme celle-là. Alors, qu'est-ce que vaut cette tradition? Est-ce que c'est, d'abord, dire qu'on est de la tribu de Yosef, c'est un peu paradoxal, vu qu'il n'y a pas de tribu de Yosef. Si vous voulez, en tant que tribu, Yosef a été mis de côté. De temps en temps, on parle de la tribu de Yosef, mais en général, on parle de Menaché et Ephraïm. Alors, c'est toujours le problème, c'est que si on compte Menaché, Ephraïm et aussi Lévi, alors il y a 13 tribus. Donc, si on veut compter Lévi, il faut compter Yosef une seule tribu. C'est-à-dire que, considérer être Yosef avec une voix, quoi, quelque part, et Lévi. Et donc ça fera 12. Et comme on parle toujours de 12 tribus, si, encore une fois, s'il y a les deux tribus de Yosef, alors on peut pas compter Lévi. Mais comme souvent, les 12 tribus, c'est 12 tribus qui ont des territoires, alors c'est pas grave parce que Lévi n'a pas de territoire. Parce que Lévi, ils ont que des villes sans territoire. revenir sur un tout autre sujet. Comme vous savez, on a vu que quand ils sont revenus de l'enterrement, alors ils ont pensé que ça y est, maintenant Yosef il va s'occuper, il va leur faire passer un mauvais quart d'heure. Jusqu'à présent, il n'avait rien fait parce qu'il ne voulait pas faire de peine à leur père. Et maintenant que le père n'est plus là, donc ils ont raconté des histoires, et puis après Yosef il a dit, mais pourquoi est-ce que pour qui vous me prenez en quelque sorte? Et il leur a dit, Atem chashavtem alai ra'a, vous avez pensé me faire du mal. Elokim chashava le tova. Mais Elokim, il a pensé sur ce que vous avez fait. Il l'a pensé positivement. Neman, afin que on se trouve dans la situation d'aujourd'hui, il a chayot amrav, où je puisse faire vivre un grand peuple. Alors le Rav Volbe dit, c'est fait partie des choses absolument extraordinaires dans le monde. Que même quand quelqu'un pense faire du mal à l'autre, la Hashgacha, elle prend cette même démarche. Que me sauver et chezei et le tovato. On ne sait pas qu'Hachem va contrer ce qu'ils vont faire. Non. C'est un peu comme on dit dans les arts martiaux, qu'il faut utiliser l'énergie de l'autre. Il a trouvé quasiment, c'est pas qu'Hachem a besoin d'énergie, mais il a utilisé le mouvement que eux ont mis en marche. C'est-à-dire cette descente de Yosef en Égypte. Si on veut parler comme ça, Hachem l'a intégré dans son programme. Ils l'ont vendu en Égypte pour en finir avec ses rêves. Et Yosef dit, Elokim chashava le tova. Justement, cette vente, c'est elle qui a permis la réalisation des rêves. La de Kelm disait, on peut jamais faire les choses contre la volonté d'Hachem. Parce qu'Adam Khoshev, Shuyasliach, la lechet negedi, Rotson Hachem. L'homme peut s'imaginer, ouais, je vais faire quelque chose et c'est contre la volonté d'Hachem. Le Bassof, le Maase Shelo, Atzmo, Ose Shiese la poil, Rotson Hachem. Son action elle-même sert à la réalisation de la volonté divine. Dans la Marshava, la mauvaise Marshava, qui était la leur, la volonté de l'Ashgacha s'est installée et elle a dirigé les choses pour le Tov. La chaîne de Pakod Ifkod, qui était en fait le mot-clé que les Bnei Israël connaissaient, et que si un sauveur se présentait et qu'il n'utilisait pas cette formule-là, on savait que c'est pas le bon. Et c'est un peu étrange parce qu'il semble que les gens aient su. Donc même si quelqu'un était un faussaire, il savait ce qu'il fallait dire. Ou bien il a pensé qu'on va prendre. Il n'aurait pas osé utiliser ce terme-là. Et en fait, cette notion de Pekida, dans Yalev Yavo, bon, si vous avez Yalev Yavo, Yagia, Virae, Viratse, Vishama, Ipaket. En fait, il y a 7 niveaux, parce que Vishama, c'est il y a 7 niveaux parce que le Bizacher, qu'on dit après, c'est pas un nouveau niveau. C'est simplement l'explication du précédent. De la Pkida, en fait. Le Gaon dit dans son Sidour, dans le Sidour du Gaon, il y a une explication sur. Il dit que ces 7 degrés-là, ce sont les 7 cieux. Vous savez qu'il y a 7 cieux et que la Kabbale, on sait que et les Shvatim savaient cela. Ils savaient que la Geoula, elle vient du 7e ciel en question. Que ça vient du plus haut, en quelque sorte. La Geoula, c'est quelque chose qui est complètement hors du monde, si on peut parler comme ça. Quelque chose de tout à fait inattendu. Ça vient de la situation la plus, où on est le plus éloigné, en quelque sorte. Parce que, comme vous savez, ces 7 cieux-là, depuis Adam Arishon jusqu'à Avraham Avinu, dans les générations, ils sont passés par, chacun a éloigné, il y a eu un éloignement d'Hachem. Et le 7e ciel, c'est la situation de l'éloignement maximal par rapport à Hachem. Et quand on était le plus éloigné, Avraham a commencé à faire redescendre. C'est Avraham Avinu qui a commencé à descendre de 7 à 6, etc., jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu la descende sur terre. Et donc la Geoula, elle vient de la Pkida, elle vient du 7e ciel, c'est-à-dire de l'éloignement maximum. C'est-à-dire que c'est le moment où, c'est ce qu'on dit d'une autre manière, en disant que les Bnei Israël, ils étaient à la veille de la disparition totale, s'ils étaient entrés dans ce fameux 50e degré d'impureté. C'était un degré dont on ne peut plus sortir. Donc il y avait plus personne pour sortir pour sortir d'Égypte. Déjà comme ça, il n'y a que un 1/5 qui était prêt à sortir. Il y a quand même 80% des gens qui n'étaient pas prêts à sortir. Eh bien, si on était resté plus longtemps, il n'y avait plus personne. Donc, c'est pour ça que la Geoula, elle vient du niveau le plus éloigné. Le Bnei Israël était loin de... C'était le Yush complet. On n'y croyait plus, quoi. Plus personne n'y croyait. 80% n'y croyaient plus. Voilà, on va s'arrêter là.